Seconde partie. Mes relations. Dans le monde et dans la société, il nous est tout au plus permis de satisfaire les exigences de l'homme. Celles de l'égoïste doivent toujours être sacrifiées. Il n'est personne qui n'ait remarqué l'intérêt passionné que l'époque actuelle témoigne pour la question sociale, de préférence à toute autre question, et qui n'ait en conséquence dirigé spécialement son attention sur la société. Pourtant, si cet intérêt était moins aveuglé par la passion, on ne perdrait pas de vue l'individu pour ne plus voir que la société. Et on reconnaîtrait qu'une société ne peut guère se renouveler tant que ses éléments vieillis ne sont pas remplacés par d'autres. À supposer par exemple qu'il se formât au sein du peuple juif une société destinée à répandre sur la terre un nouvel évangile, il ne faudrait pas que ses apôtres demeurassent des pharisiens. Tel tu es, et tel tu te montreras et te comporteras envers les hommes, hypocrite en hypocrite, chrétien en chrétien. C'est pourquoi le caractère d'une société est déterminé par le caractère de ses membres. Ils en sont les créateurs. C'est là un point dont il serait bon de tenir compte, si l'on ne veut pas analyser la notion même de société. Les hommes, bien loin de chercher à atteindre leur complet développement, et à se faire valoir, n'ont pas même su jusqu'à présent fonder leur société sur eux-mêmes. Bien plus, ils n'ont su jusqu'ici que fonder des sociétés et vivre en société. Ces sociétés furent de tout temps des personnes, personnes puissantes, personnes morales, qui inspiraient à l'individu la folie congrue, la peur des fantômes. Tout fantôme qui se respecte porte un nom. Ceci s'appelle peuple. Il y eut un peuple des aïeux, un peuple des Hélènes, etc. Et il y a aujourd'hui le peuple des humains. L'humanité. Anacharsis Klotz rêvait une nation de l'humanité. Vinrent ensuite les subdivisions de ce peuple qui renfermait ses sociétés particulières. Peuple espagnol, peuple français, etc. Ces dernières comprirent à leur tour les castes, les villes, les corporations, bref, tous les groupements possibles, jusqu'au minuscule petit peuple qu'est la famille. Au lieu de dire que la personne qui a jusqu'à présent hanté toutes les sociétés fut le peuple, on pourrait nommer à sa place l'un des deux extrêmes, la famille ou l'humanité, qui sont les deux unités les plus naturelles. Nous préférons cependant le mot peuple, d'abord parce que son étymologie le rattache au mot grec poloa, le nombre, la foule. Ensuite, et surtout parce que les revendications populaires sont aujourd'hui à l'ordre du jour et que les révolutionnaires les plus contemporains n'ont pas encore dépouillé leur idolâtrie pour cette illusoire personne. Cette dernière considération serait cependant plutôt faite pour nous incliner à choisir le terme « humanité », l'humanité étant aujourd'hui ce que tout le monde rêve. Ainsi donc, le peuple, l'humanité ou la famille ont jusqu'à présent, semble-t-il, occupé la scène de l'histoire. Aucun intérêt égoïste n'était toléré dans ces sociétés, seuls les intérêts d'une collectivité, intérêts nationaux ou intérêts du peuple, intérêts de caste, intérêts de famille et intérêts généraux de l'humanité pouvaient y jouer un rôle. Mais qui donc a conduit à leur perte les peuples dont l'histoire nous conte la chute? L'égoïste qui cherche sa propre satisfaction. Chaque fois qu'un intérêt égoïste s'y insinua, la société fut corrompue et marcha à sa désorganisation. Le peuple romain et le perfectionnement de son droit privé, ou le christianisme et son incessante invasion par le libre examen, la conscience de soi, l'autonomie de l'esprit, etc., en sont d'illustres exemples. Le peuple chrétien a produit deux sociétés qui dureront ce que lui-même durera. L'État et l'Église. Peut-on les appeler des associations d'égoïstes? Poursuivons-nous en elles un intérêt égoïste, personnel, individuel, ou y poursuivons-nous un intérêt populaire, parce que du peuple chrétien, sous le nom d'intérêt de l'État ou d'intérêt de l'Église, m'est-il en elle possible, m'est-il par elle permis d'être moi-même? Puis-je penser et agir comme je veux? Puis-je me manifester, m'affirmer, vivre ma vie à moi? Ne dois-je pas laisser intacte la majesté de l'État et la sainteté de l'Église ? Ainsi, donc, ce que je veux, je ne le puis pas. Mais est-il une société, quelle qu'elle soit, où je puisse espérer trouver cette liberté d'action illimitée ? Non. Et une société est-elle capable de nous satisfaire ? En aucune façon. C'est tout autre chose de me heurter à un autre moi, ou de me heurter à un peuple, à une généralité. Dans le premier cas, mon adversaire et moi combattons d'égal à égal. Dans le second, je suis un adversaire méprisé, enchaîné et tenu en tutelle. Contre un autre moi, je suis un mâle en face d'un mâle. En face du peuple, je suis un écolier qui ne peut s'attaquer à son camarade sans que ce dernier appelle à son secours le papa et la maman. Lorsqu'il s'est mis à l'abri derrière une jupe, moi, l'enfant mal appris, on me gronde et on me défend de raisonner. Un moi est un ennemi en chair et en os. Allez donc étreindre et terrasser l'humanité, une abstraction, une majesté, un fantôme. Mais il n'est pas de majesté, pas de sainteté qui puisse me dire « Tu n'iras pas plus loin, rien ne peut m'empêcher de passer dont je puis me rendre maître. Ce que je ne puis vaincre, voilà la seule limite à mon pouvoir. Et tant que mon pouvoir est borné, je ne suis qu'un moi borné. Borné non pas par la puissance extérieure, mais parce qu'il me manque encore de puissance propre, par ma propre impuissance. Mais la garde meurt et ne se rend pas. Donnez-moi seulement un adversaire vivant. Je me mesurerai avec tout adversaire que je puis voir et toiser du regard, qui, lui-même plein de courage, enflamme mon courage, etc. » Le temps a aboli maintes privilèges, mais toujours en vue du seul bien public, en vue de l'État, du bien de l'État, et en aucune façon en vue de mon bien à moi. Le servage, par exemple, ne fut aboli qu'afin de renforcer la puissance d'un maître unique, du maître du peuple, la puissance monarchique. Le servage ainsi monopolisé n'en devint que plus écrasant. Ce n'est jamais qu'en faveur d'un monarque que ce monarque s'appelle prince ou s'appelle loi, que les privilèges sont tombés. En France, il est vrai, les citoyens ne sont pas serfs du roi, mais en revanche, ils sont serfs de la loi, la charte. La subordination persiste, seulement l'État chrétien, ayant reconnu que l'homme ne peut servir deux maîtres à la fois, son suzerain et le prince, par exemple, tous les privilèges ont été donnés à un seul. Il peut de nouveau placer l'un au-dessus de l'autre et créer des hauts placés. Mais que m'importe le bien public ? Par là même qu'il est le bien public, il n'est pas mon bien, mais le suprême degré de l'abnégation. Je puis avoir le ventre vide pendant que le bien public festoie, l'État illumine peut-être, tandis que je crève de faim. La vraie folie des libéraux politiques, c'est d'opposer le peuple au gouvernement et de parler de droits du peuple. Ils veulent que le peuple soit majeur, etc. Comme si un mot pouvait être majeur. Seul l'individu peut être majeur. De même, toute la question de la liberté de la presse n'a plus ni queue ni tête si on prétend faire de cette liberté un droit du peuple. Elle est simplement un droit, ou pour mieux dire, une conséquence de la force de l'individu. Si c'est le peuple qui a la liberté de la presse, moi, bien que je fasse partie de ce peuple, je n'en jouis pas. Une liberté du peuple n'est pas ma liberté, et si la liberté de la presse est une liberté du peuple, elle sera nécessairement flanquée d'une loi sur la presse dirigée contre moi. Ce qu'il faut surtout bien faire valoir, en présence des tendances libérales actuelles, c'est que la liberté du peuple n'est pas ma liberté. Admettons ces catégories. Liberté du peuple et droit du peuple, et soit par exemple le droit du peuple que chacun a de porter des armes. N'est-ce pas là un droit dont on peut être privé ? Si c'était mon propre droit, je ne pourrais pas le perdre. Mais ce droit ne m'appartient pas, il appartient au peuple. Aussi peut-il m'être enlevé. Je puis être emprisonné en vertu de la liberté du peuple, et je puis, à la suite d'une condamnation, être déchu du droit de porter des armes. Le libéralisme me paraît être une dernière tentative, pour instaurer la liberté du peuple, la liberté de la communauté, de la société, de la généralité, de l'humanité. J'y vois le rêve d'une humanité majeure, d'un peuple majeur, d'une communauté, d'une société majeure. Un peuple ne peut être libre qu'aux dépens de l'individu, car sa liberté ne touche que lui et n'est pas l'affranchissement de l'individu. Plus le peuple est libre, plus l'individu est lié. C'est à l'époque de sa plus grande liberté que le peuple grec établit l'ostracisme, bannit les athées et fit boire la ciguë au plus probre de ses penseurs. Combien n'a-t-on pas vanté chez Socrate le scrupule de probité qui lui fit repousser le conseil de s'enfuir de son cachot? Ce fut de sa part une pure folie de donner aux Athéniens le droit de le condamner. Aussi n'a-t-il été traité que comme il le méritait. Pourquoi se laissait-il entraîner par les Athéniens à engager la lutte sur le terrain où il s'était placé? Pourquoi ne pas rompre avec eux? S'il avait su, s'il avait pu savoir ce qu'il était, il n'eût reconnu à de tels juges aucune autorité, aucun droit. S'il fut faible, ce fut précisément en ne fuyant pas, en gardant cette illusion qu'il avait encore quelque chose de commun avec les Athéniens, et en s'imaginant n'être qu'un membre, un simple membre de ce peuple. Il était bien plutôt ce peuple même en personne, et seul il pouvait être son juge. Il n'y avait point de juge au-dessus de lui. N'avait-il pas d'ailleurs prononcé sa sentence? Il s'était, lui, jugé digne du Prytané. Il aurait dû s'en tenir là, et n'ayant prononcé contre lui-même aucune sentence de mort, il aurait dû mépriser celle des Athéniens et s'enfuir. Mais il se subordonna et il accepta le peuple pour juge. Il se sentait petit devant la majesté du peuple. S'incliner comme devant un droit, devant la force, qu'il n'aurait dû reconnaître qu'en y succombant, c'était se trahir soi-même, et c'était de la vertu. La légende attribue les mêmes scrupules au Christ, qui, dit-on, ne voulut pas se servir de sa puissance sur les légions célestes. Luther fut plus sage. Il eut raison de se faire délivrer un sauf-conduit en bonne forme avant, de se hasarder à la diète de Worms. Et Socrate aurait dû savoir que les Athéniens n'étaient que ses ennemis et que lui seul était son juge. L'illusion d'une justice, d'une légalité, etc., devait se dissiper devant cette considération que toute relation est un rapport de force, une lutte de puissance à puissance. La liberté grecque périt misérablement au milieu des chicanes et des intrigues. Pourquoi ? Parce que les conclusions que n'avait pas su tirer Socrate, leur maître dans l'art de penser, le commun des Grecs était bien moins capable encore de s'y élever. Qu'est-ce que la chicane ? Sinon l'art d'exploiter l'actuel sans le détruire. Je pourrais ajouter d'exploiter à son profit, mais cela va de soi. Parmi ces gens de chicane, nous comptons les théologiens, qui commentent et interprètent la parole de Dieu. À quoi accrocheraient-ils leur glose si la parole divine n'était pas un texte présent et censé immuable? Tels sont encore les libéraux qui ne s'attaquent au présent que pour le critiquer et l'interpréter. Tous ne sont que des falsificateurs, juste comme ceux qui falsifient le droit. Socrate s'était incliné devant le droit et devant la loi, et les Grecs continuèrent à admettre l'autorité du droit et de la loi. Mais ils n'entendaient pas prodiguer gratuitement leur respect. Il fallait qu'ils y trouvassent leur compte, et ils durent bien en venir à le chercher dans l'intrigue et à fausser le droit. Avec Alcibiade, cet intrigant de génie, commence la période de la décadence athénienne. Le Spartiate Lysandre et bien d'autres témoignent que l'intrigue s'était répandue comme une lèpre dans toute la Grèce. Le droit grec, sur lequel reposaient les États grecs, fut, dans ces États mêmes, miné et ébranlé par les égoïstes, et les États croulèrent, mettant en liberté les individus. Le peuple grec tomba parce que les individus faisaient moins de cas de lui que d'eux-mêmes. État, constitution, église, etc. se sont toujours évanouis dès que l'individu a levé la tête, car l'individu est l'ennemi irréconciliable de tout ce qui tend à submerger sa volonté sous une volonté générale, de tout lien, c'est-à-dire de toute chaîne. Cependant, on s'imagine aujourd'hui encore que l'homme ne peut se passer de lien sacré. L'homme, cet ennemi mortel de tout lien. L'histoire des peuples nous montre qu'aucun lien n'a pu échapper à la dissolution. Elle nous démontre que l'homme lutte infatigablement contre toute chaîne, quelle qu'elle soit. Et cependant, on ferme les yeux devant l'évidence et l'on en rêve encore et toujours de nouvelles. On croit, par exemple, avoir trouvé quelque chose de neuf et de solide quand on impose à l'homme ce qu'on appelle une constitution libérale, une belle chaîne constitutionnelle. Les rubans, les cordons et tous les liens de confiance et d'amour qui unissent les sujets à finissent en vérité par montrer quelque peu la corde. Mais quelques progrès qu'on ait fait en matière de liens, on est arrivé, en partant des lisières, qu'à la bretelle ou à la cravate. Tout ce qui est sacré est un lien, une chaîne. Tout ce qui est sacré est falsifié par des faussaires et il ne pourrait en être autrement. Aussi trouve-t-on à notre époque une foule de ces faussaires dans toutes les sphères. Ils préparent la rupture avec le droit, la suppression du droit. Pauvres Athéniens qu'on accuse de chicane et de sophistique. Pauvres Alcibiades que l'on accuse d'intrigue. C'est là justement ce que vous aviez de meilleur. C'était votre premier pas vers la liberté. Votre Esquille, votre Hérodote et les autres ne rêvaient qu'un peuple grec libre. Vous eûtes, les premiers, un pressentiment de votre liberté. Tout peuple opprime ceux qui s'élèvent au-dessus de sa majesté. L'ostracisme menace le citoyen trop puissant. L'inquisition de l'Église guette l'hérétique et l'inquisition également guette le traître envers l'État. Car le peuple n'a cure que de se maintenir et de s'affermir. Il réclame de chacun un patriotique dévouement. L'individu en soi lui est donc indifférent. C'est un zéro, et le peuple ne peut faire, ni même permettre, que l'individu accomplisse ce qu'il est seul capable d'accomplir, sa réalisation. Tout peuple, tout État est injuste envers les égoïstes. Tant qu'il reste debout une seule institution, qu'il n'est pas permis à l'individu d'abolir, le moi est encore bien loin d'être sa propriété et d'être autonome. Comment parler de liberté tant que je dois par exemple me lier par serment à une constitution, à une charte, à une loi, tant que je dois jurer d'appartenir corps et âme à mon peuple? Comment être moi-même s'il n'est permis à mes facultés de se développer que pour autant qu'elles ne troublent pas l'harmonie de la société? La chute des peuples et de l'humanité sera le signal de son élévation. Écoute, au moment même où j'écris ces lignes, les cloches se sont mises à sonner. Elles portent au loin un joyeux message. Demain, on célèbre le 1000e anniversaire de notre chère Allemagne. Sonnez, sonnez aux cloches, cloches des funérailles. Votre voix est si solennelle et si grave qu'il semble que vos langues de bronze soient mues par un pressentiment et que vous escortiez un mort. Peuple allemand et peuples allemands ont derrière eux 10 siècles d'histoire. Quelle longue vie! Descendez donc au tombeau pour ne vous relever jamais et qu'ils soient libres ceux que vous avez tenus enchaînés si longtemps. Le peuple est mort, je me lève. Ô toi qui as tant souffert, ô mon peuple allemand, quelle a été ta souffrance? C'était le tourment d'une pensée qui ne peut se créer un corps, le tourment d'un esprit errant qui s'évanouit lorsque le coq chante et qui aspire cependant à sa délivrance et à sa réalisation. En moi aussi, tu as longtemps vécu, chère pensée, cher fantôme. Déjà je croyais avoir trouvé la parole magique qui doit te délivrer, déjà je croyais avoir découvert une chair et des membres pour vêtir l'esprit errant, et voilà que j'entends le glas des cloches qui te conduisent au repos éternel. Voilà que la dernière espérance s'envole, que le dernier amour s'éteint. Je dis adieu à la maison déserte des morts et je retourne parmi les vivants. Car seuls les vivants ont raison. Adieu donc, rêve de tant de millions d'hommes. Adieu, toi qui, pendant 1000 ans, as tyrannisé tes enfants. Demain, on te portera en terre. Bientôt, tes sœurs, les nations, te suivront. Quand toutes seront parties à ta suite, l'humanité sera enterrée et sur sa tombe, moi, mon seul maître, enfin, moi, son héritier, je rirai. Le mot Gesellschaft, société, a pour étymologie le mot Saal, salle. Lorsqu'une salle renferme plusieurs personnes, c'est elle qui fait que ces personnes sont en société. Elles sont en société, mais elles ne font pas la société. Elles en font tout au plus une société de salon si elles parlent le langage que l'on parle dans un salon. Quant aux véritables relations, elles sont indépendantes de la société. Elles peuvent exister ou ne pas exister sans que la nature de ce qu'on appelle société en soit altérée. La société, ce sont les personnes qui se trouvent dans la salle, et peu importe qu'elles soient muettes ou ne prononcent que de banales phrases de politesse. Les relations, au contraire, impliquent réciprocité. C'est le commerce, commercium, des individus. La société n'est que l'occupation en commun d'une salle. Des statues, dans une salle de musée, sont en société, elles sont groupées. Telle étant la signification naturelle du mot société. Il s'ensuit que la société n'est pas l'œuvre de toi et de moi, mais d'un tiers. C'est ce tiers qui fait de nous des compagnons et qui est le vrai fondateur, le créateur de la société. Il en est de même pour une société ou compagnie de prisonniers, ceux qui jouissent d'une même prison. Le tiers que nous rencontrons ici est déjà plus complexe que ne l'était celui de tantôt, le simple local, la salle. Prison ne désigne plus simplement un lieu, mais un lieu en rapport avec ses habitants. La prison n'est prison que parce qu'elle est destinée à des prisonniers, sans lesquels elle serait un bâtiment quelconque. Qui imprime un caractère commun à ceux qui y sont assemblés ? Il est clair que c'est la prison, car c'est à cause d'elle qu'ils sont des prisonniers. Qui détermine la manière de vivre de la société de prisonniers ? Encore la prison. Mais qui détermine leur relation ? Est-ce aussi la prison ? Halte, ici je vous arrête. Évidemment, s'ils entrent en relation, ce ne peut être que comme des prisonniers, c'est-à-dire que pour autant que le permettent les règlements de la prison, mais ces relations, c'est eux-mêmes et eux seuls qui les créent. C'est le « je » qui se met en rapport avec le « tu ». Non seulement ces relations ne peuvent pas être le fait de la prison, mais celle-ci doit veiller à s'opposer à toute relation égoïste, purement personnelle, les seules qui puissent s'établir réellement entre un « je » et un « tu ». La prison consent à ce que nous fassions un travail en commun. Elle nous voit avec plaisir manœuvrer ensemble une machine ou partager n'importe quelle besogne. Mais si j'oublie que je suis un prisonnier, et si je noue des relations avec toi, également oublieux de ton sort, voilà qui met la prison en péril. Non seulement elle ne peut créer de pareilles relations, mais elle ne peut même pas les tolérer. Et voilà pourquoi la Chambre française, saintement et moralement pensante, a adopté le système de la prison cellulaire. Les autres, non moins vertueusement intentionnés, feront de même pour mettre un obstacle aux relations démoralisantes. Dès que l'emprisonnement est une affaire faite, il est sacré, il n'est plus permis de s'y attaquer. La moindre tentative de ce genre est punissable, comme l'est toute révolte contre une des sacro-saintetés auxquelles l'homme doit se livrer, pieds et poings liés. La prison, comme la salle, produit une société, une compagnie, une communauté, communauté de travail par exemple, mais non des relations, une réciprocité, une association. Au contraire, toute association entre individus née à l'ombre de la prison porte en elle le germe dangereux d'un complot. Et cette semence de rébellion peut, si les circonstances sont favorables, germer et porter des fruits. Ce n'est guère l'usage d'aller volontairement en prison, et il est également peu commun que l'on y reste volontairement, on y nourrit plutôt un égoïste désir de liberté. Il est donc à présumer que toutes les relations personnelles entre prisonniers seront hostiles à la société réalisée par la prison, et ne tendront à rien de moins qu'à dissoudre cette société qui résulte de la captivité commune. Adressons-nous donc à d'autres sociétés, des sociétés où il semble que nous demeurions volontiers et de notre plein gré, sans vouloir en compromettre l'existence par nos manœuvres égoïstes. Comme communauté remplissant ces conditions, se présente en premier lieu la famille. Parents, époux, enfants, frères et sœurs forment un tout ou constituent une famille dont des alliances viennent peu à peu grossir les rangs. La famille n'est réellement une communauté que si tous ses membres en observent la loi, la piété ou l'amour familial. Un fils à qui père, mère, frères et sœurs sont devenus indifférents a été fils, mais sa qualité de fils, ne se manifestant plus activement, a aussi peu d'importance que la liaison depuis longtemps détruite de la mère et de l'enfant par le cordon ombilical. Cette dernière liaison a existé autrefois, elle est un fait qu'il n'est plus possible de défaire et en vertu duquel on reste irrévocablement le fils de cette mère et le frère de ses autres enfants. Mais une dépendance permanente ne peut résulter que de la permanence de la piété, de l'esprit de famille. Les individus ne sont, dans toute l'acception du mot, membres d'une famille que s'ils se font un devoir de maintenir la famille et s'ils se gardent, comme ses conservateurs, d'en remettre le fondement en question. Il est pour tout membre de la famille une chose inébranlable et sacrée. C'est la famille elle-même, ou plus exactement la piété. La famille doit subsister, tel est pour celui de ses membres qui ne s'est laissé envahir par aucun égoïsme antifamilial, la vérité fondamentale, celle qu'aucun doute ne peut effleurer. En un mot, si la famille est sacrée, aucun de ceux qui lui appartiennent ne peut s'en détacher sous peine d'être criminel envers elle. Il ne pourra jamais poursuivre un intérêt contraire à celui de la famille, se mésallier par exemple, lui est interdit. Celui qui le fait déshonore sa famille, en fait la honte, etc. L'individu chez qui l'instinct égoïste n'est pas assez fort se soumet. Il conclut le mariage qui satisfait les prétentions de sa famille. Il choisit une profession en rapport avec sa position, etc. Bref, il fait honneur à sa famille. Si au contraire le sang égoïste bout avec assez d'ardeur dans ses veines, il préfère devenir criminel envers la famille et se soustrait à ses lois. Lequel m'est le plus cher, du bien de la famille ou de mon bien? Il est des cas innombrables où les deux peuvent marcher amicalement côte à côte, où ce qui est utile à ma famille peut être pour moi une source de profit ou réciproquement. Il est alors malaisé de décider si je poursuis le bien commun ou mon bien à moi, et je me flatterai peut-être avec complaisance de mon désintéressement. Mais vient un jour où se dresse devant moi l'alternative redoutable, ou ceci ou cela. Il faut choisir, et par mon choix, je vais peut-être déshonorer mon arbre généalogique, offenser père, mère, frères et sœurs, tous mes parents. Que faire? C'est ici que va se montrer à nu le fond de mon cœur, et qu'on va savoir si j'ai jamais mis la piété au-dessus de l'égoïsme. L'égoïsme ne peut plus se dissimuler sous le voile du désintéressement. Un désir s'allume dans mon âme, et grandissant d'heure en heure, il devient passion. La plus fugitive pensée contraire à l'esprit de famille, à la piété, porte déjà en elle le germe d'un crime contre la famille. Mais qui s'avise de cela et qui pourrait au premier moment en avoir une perception nette? C'est l'histoire de la Juliette de Roméo et Juliette. La passion déchaînée finit par ne plus pouvoir être domptée et par renverser tout l'édifice de la piété. Vous me direz que c'est purement dans son intérêt que la famille rejette de son sein ces égoïstes qui obéissent à leur passion plus qu'à la piété. C'est ce même argument que les protestants ont invoqué avec beaucoup de succès contre les catholiques. Et ils sont bien convaincus que c'est ainsi que les choses se sont passées en ce qui les concerne. Mais c'est là une échappatoire de gens qui sentent le besoin de se disculper et rien de plus. Les catholiques, qui tenaient à l'unité de l'Église, n'ont repoussé ces hérétiques que parce que ceux-ci ne tenaient pas assez à l'unité pour lui faire le sacrifice de leurs convictions. Les uns ont énergiquement défendu l'unité parce que le lien, l'Église catholique, autrement dit unique et universelle, leur était sacré, les autres, au contraire, ont mis le lien de côté. Il en est de même de ceux qui s'affranchissent de la piété. Ce n'est pas la famille qui les exclut de son sein, ils s'en excluent d'eux-mêmes en mettant leur passion ou leur volonté individuelle au-dessus du lien familial. Mais il peut arriver que le désir s'allume dans un cœur moins passionné et moins volontaire que celui de Juliette. Alors, celle qui se soumet se sacrifie à la paix de la famille. On pourrait dire qu'ici encore, c'est l'égoïsme qui la fait agir, car la décision que prend celle qui cède vient de ce que l'union de la famille la satisfait mieux que ne le ferait l'accomplissement de son désir. C'est possible, mais comment le croire s'il reste un signe certain du sacrifice de l'égoïsme à la piété? Comment le croire si le désir contraire à la paix de la famille reste, une fois le sacrifice consommé, comme le souvenir et le témoin d'un sacrifice fait à un lien sacré? Et si celle qui se soumet a conscience de n'avoir pas réalisé sa volonté propre, de s'être humblement inclinée devant une puissance supérieure, soumise et sacrifiée parce que la superstition de la piété a exercé sur elle son empire? Là, l'égoïsme avait vaincu. Ici, la piété est victorieuse et le cœur égoïste saigne. Là, l'égoïsme était fort, ici, il a été faible. Des faibles, voilà, nous le savons depuis longtemps, ce que sont les désintéressés. La famille a soin d'eux, elle entoure ses faibles membres de sa sollicitude parce qu'ils lui appartiennent et qu'ils ne s'appartiennent pas ni ne songent à eux-mêmes. C'est de cette faiblesse que Hegel, par exemple, fait l'éloge quand il demande que le mariage des enfants soit subordonné au choix des parents. La famille étant une communauté sacrée à laquelle l'individu doit obéissance, la fonction de juge lui appartient de droit. Le Cabanis de Willibald Alexis, par exemple, nous décrit un tribunal de famille. Le père, au nom du conseil de famille, envoie à l'armée son fils insoumis et l'expulse de la famille afin de purifier par cet acte de rigueur la famille souillée. Le droit chinois donne à la responsabilité de la famille une sanction très logique en faisant expier par toute la famille la faute d'un de ses membres. De nos jours, toutefois, le bras de l'autorité familiale s'étend rarement assez loin pour pouvoir efficacement châtier le rebelle. L'État protège même, dans la plupart des cas, contre l'exhérédation. Le criminel contre la famille n'a qu'à se réfugier dans le giron de l'État pour devenir libre, de même que le criminel envers l'État qui s'enfuit en Amérique y trouve un asile contre les lois de son pays. Le fils dénaturé, opprobre de sa famille, est à l'abri de tout châtiment parce que l'État protecteur enlève à la vindicte familiale toute sainteté et la profane en déclarant qu'elle n'est que vengeance. L'État s'oppose au châtiment. L'exercice d'un droit sacré de la famille, parce que la sainteté de la famille étant, dans la hiérarchie, inférieure à sa propre sainteté, pâlit et perd tout prestige dès qu'elle entre en lutte avec cette sainteté supérieure. Lorsqu'il n'y a pas conflit entre les deux, l'État laisse toute sa valeur à l'autorité sacrée, encore que moins sacrée, de la famille, mais dans le cas contraire, il va jusqu'à ordonner le crime envers la famille. Il fait un devoir au fils, par exemple, de refuser d'obéir à ses parents si ceux-ci veulent l'entraîner à pécher contre l'État. Supposons que l'égoïste ait rompu les liens familiaux et trouve dans l'État un protecteur contre l'esprit de famille gravement offensé. À quoi en arrive-t-il? À faire partie d'une nouvelle société dans laquelle son égoïsme va rencontrer les mêmes pièges, les mêmes filets que ceux auxquels il vient d'échapper. L'État aussi est une société et n'est pas une association. Il est l'extension de la famille. Père du peuple, mère du peuple, enfant du peuple. Ce qu'on nomme « État » est un tissu, un entrelacement de dépendance et d'attachement. C'est une solidarité, une réciprocité, ayant pour effet que tous ceux entre lesquels s'établit cette coordination s'accordent entre eux et dépendent les uns des autres. L'État est l'ordre, le régime de cette dépendance mutuelle. Que le roi, dont l'autorité se répercute sur tous ceux qui détiennent le moindre emploi public, jusque sur le valet du bourreau, vienne à disparaître, l'ordre n'en sera pas moins maintenu en face du désordre de la bestialité par tous ceux chez qui veille le sens de l'ordre. Si le désordre l'emportait, l'État aurait vécu. Mais cette bonne entente, cet attachement réciproque, cette dépendance mutuelle, cette pensée d'amour est-elle réellement capable de nous gouverner? À ce compte, l'État serait l'amour réalisé. Vivre dans l'État serait être pour autrui et vivre pour autrui. Mais que devient l'individualité quand règne l'esprit d'ordre? Ne trouvera-t-on pas que tout est pour le mieux, pourvu que l'on parvienne par la force à faire régner l'ordre, c'est-à-dire à disloquer et à parquer judicieusement le troupeau, de façon que nul ne marche sur les pieds du voisin? Tout est ainsi mis en bon ordre, et c'est ce bon ordre qu'on appelle État. Nos sociétés et nos États sont sans que nous les fassions. Ils peuvent s'allier sans qu'il y ait alliance entre nous. Ils sont prédestinés et ils ont une existence propre, indépendante. En face de nous, les égoïstes, ils sont l'état de choses existants et indissolubles. Toutes les luttes d'aujourd'hui sont bien, comme on le dit, dirigées contre l'ordre établi et visent à renverser l'état de choses régnant. Mais leur véritable but est universellement méconnu. Il semblerait, à entendre nos réformateurs, qu'il s'agit simplement de substituer à ce qui existe actuellement un nouvel ordre meilleur. C'est bien plutôt à l'ordre lui-même, c'est-à-dire à tout État, quel qu'il soit, que la guerre devrait être déclarée et non pas à tel État déterminé, à la forme actuelle de l'État. Le but à atteindre n'est pas un autre État, l'État démocratique par exemple, mais l'alliance, l'union, l'harmonie toujours instable et changeante de tout ce qui est et n'est qu'à condition de changer sans cesse. Un État se passe de mon entremise et de mon consentement. Je nais en lui, j'y grandis, j'ai envers lui des devoirs et je lui dois foi et hommage. Il me prend sous son aile tutélaire et je vis de sa grâce. Ainsi, l'existence indépendante de l'État fonde ma dépendance. Sa vie comme organisme exige que je ne croisse pas en liberté, mais que je sois taillé pour lui, afin de pouvoir s'épanouir suivant sa nature. Il m'applique les ciseaux de la culture, il me donne une éducation et une instruction mesurée sur lui et non sur moi, et m'apprend, par exemple, à respecter les lois, à me garder d'attenter à la propriété de l'État, c'est-à-dire à la propriété privée, à vénérer une altesse divine ou terrestre, etc. En un mot, il m'enseigne à être irréprochable, en sacrifiant mon individualité sur l'autel de la sainteté. Saint ou sacré est tout ce qu'on peut imaginer, propriété, vie d'autrui, etc. Telle est l'espèce de culture que l'État est capable de me donner. Il me dresse à être un bon instrument, un membre utile de la société. C'est ce que doit faire tout État, qu'il soit démocratique, absolu ou constitutionnel. Et il le fera tant que nous ne nous serons pas défaits de cette idée erronée qu'il est un moi et comme tel une personne morale, mystique ou politique. C'est de cette peau du lion, du moi, que je dois, moi qui suis véritablement un moi, dépouiller le vaniteux mangeur de chardon. À quel pillage mon moi n'est-il pas livré depuis que le monde est monde? Ce furent d'abord le soleil, la lune et les étoiles, les chats et les crocodiles qui eurent l'honneur de passer pour moi. Ce furent ensuite Jéhovah, Allah, notre Père qui usurpèrent mon titre. Puis les familles, les tribus, les peuples et jusqu'à l'humanité vinrent enfin l'État et l'Église, toujours avec la même prétention d'être moi, et moi, je les regardais paisiblement faire. Quoi d'étonnant alors que, toujours de la même façon, un « moi » réel se soit présenté et m'ait affirmé en face qu'il ne m'était pas un « toi », mais bel et bien mon propre « moi ». C'est ce que fit le Fils de l'homme par excellence, et je me demande ce qui empêcherait le premier Fils de l'homme venu d'en faire autant. Voyant ainsi mon « moi » toujours au-dessus et en dehors de moi, je ne suis jamais parvenu à être réellement moi-même. Je n'ai jamais cru à moi, je n'ai jamais cru à mon actualité, et je n'ai jamais su me voir que dans l'avenir. L'enfant croit qu'il sera vraiment lui lorsqu'il sera devenu autre, lorsqu'il sera un grand. L'homme pense qu'au-delà de cette vie seulement, il pourra être vraiment quelque chose. Et pour prendre un exemple plus près de nous, les meilleurs ne prétendent-ils pas aujourd'hui encore qu'il faut, avant d'être réellement un moi, un citoyen libre, un citoyen de l'État, un homme libre ou un véritable homme, s'être au préalable incorporé l'État, son peuple, l'humanité et que sais-je encore. Eux non plus ne conçoivent de vérité et de réalité pour le moi que dans l'acceptation d'un moi étranger auquel on se dévoue. Et qu'est-il ce moi? Un moi qui n'est ni un moi, ni un toi, un moi imaginaire, un fantôme. Tandis qu'au Moyen-Âge, l'Église admettait parfaitement que plusieurs États vécussent côte à côte sous son aile, quand vint la Réforme, et plus particulièrement la guerre de 30 ans, ce fut aux États à apprendre la tolérance et à permettre à diverses églises, confessions, de vivre réunies sous une même couronne. Mais tous les États sont religieux, tous sont des États chrétiens. Et ils se font un devoir de courber les indépendants et les égoïstes sous le joug du surnaturel, c'est-à-dire de les christianiser. Toutes les institutions de l'État chrétien visent à la christianisation du peuple. Le but de tout l'appareil judiciaire est de forcer les gens à la justice. Celui de l'école est de leur imposer la culture intellectuelle, etc. Bref, le but de l'État est invariable. Protéger celui qui agit chrétiennement contre celui qui n'agit pas chrétiennement. Le rendre fort et lui assurer la suprématie. L'Église elle-même devint dans les mains de l'État un instrument de contrainte, et il exigea de chacun une religion déterminée. L'enseignement et l'éducation appartiennent à l'État, disait dernièrement Dupin en parlant du clergé. Tout ce qui touche au principe de la moralité est affaire d'État. De là les perpétuelles immixtions de l'État chinois dans les affaires de famille. En Chine, on n'est rien si l'on n'est pas avant toute chose un bon enfant de ses parents. Chez nous aussi, les affaires de famille sont foncièrement des affaires d'État. Seulement l'ingérence de l'État y est moins visible, parce qu'il se fie à la famille et ne la soumet pas à une trop étroite surveillance. Il la tient liée par le mariage, dont lui seul peut dénouer les liens. L'État me demande compte de mes principes et m'en impose certains. Cela pourrait m'induire à demander. Que lui importe ma marotte, mon principe? Beaucoup, car il est, lui, le principe suprême. C'est une opinion courante que toute la question du divorce et du droit matrimonial, en général, roule sur le départ, affaire entre les droits de l'Église et les droits de l'État. Le problème est plutôt celui-ci. Étant donné que l'homme doit être gouverné par une sainteté, celle-ci s'appelle-t-elle foi ou loi morale, moralité? La domination de l'État ne diffère pas de celle de l'Église, l'une s'appuie sur la piété, l'autre sur la moralité. On parle de la tolérance et l'on vante comme un caractère des États civilisés la liberté qui y ont les tendances les plus opposées de se manifester, etc. Il est vrai que si quelques-uns lancent leurs policiers aux trousses des fumeurs de pipe, d'autres sont assez forts pour ne pas se laisser mouvoir par les meetings les plus turbulents. Mais pour apprécier cette longanimité, il faut remarquer que pour tout État, le jeu réciproque des individualités, les hauts et les bas de leur vie quotidienne, sont en quelque sorte une part laissée au hasard, part qu'il doit bien leur abandonner, faute de pouvoir la canaliser utilement. Certains États font comme le pharisien, qui gobait des chameaux et faisait la grimace devant une mouche. Tandis que d'autres sont plus judicieux, dans ces derniers les individus sont plus libres parce qu'ils sont moins menés à la baguette. Mais libre, je ne le suis dans aucun état. Leur fameuse tolérance ne s'exerce qu'en faveur de ce qui est inoffensif et sans danger. Elle n'est que leur haussement d'épaules devant ce qui ne vaut pas qu'ils en tiennent compte et n'est qu'un despotisme plus imposant, plus auguste et plus orgueilleux. Certains États ont manifesté pendant quelque temps des velléités de s'élever au-dessus des querelles littéraires et de permettre à tous de s'y livrer à cœur joie. L'Angleterre, elle, porte la tête trop haut pour entendre la rumeur de la foule et sentir la fumée de tabac. mais malheur à la littérature qui s'attaque à l'État même. Malheur aux soulèvements populaires qui mettent l'État en danger. Dans l'État auquel nous faisons allusion, on rêve d'une science libre, et en Angleterre, on rêve d'une vie populaire libre.